Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipe est sauvage. 2 heures de découverte, de rire pour vous, de stress et de larmes pour eux. Depuis la rentrée, les journalistes d'Europe 1 sont désormais en compétition. Chaque après-midi, pour le titre de chroniqueur du jour, celui ou celle dont le sujet vous aura le plus étonné, le plus captivé, à mes côtés, ma muse, ma fée, une femme admirable qui, à l'instar de Françoise Giroud, sa mère spirituelle, n'a qu'une passion dans la vie.
Le sexe.
Non.
Fort, non. Furieux, Eva, passionné,
non, le journalisme, Bonjour Eva Roque.
Je ne sais pas si je vous dis bonjour, mais je dis bonjour aux auditeurs en tout cas.
Mais je crois qu'aujourd'hui vous allez pouvoir assouvir simultanément vos deux passions, car nous recevons un auteur de bande dessinée qui aime bien parler de sexe. Son héros fétiche s'appelle Titeuf, une BD qu'on peut lire de 7 à 177 ans. Mais là, il publie Happy Sex 2, interdit aux moins de 18 ans. Et autant Eva avait eu du mal à venir à bout des 650 pages du bouquin de Alexis Michalik mercredi, si on peut le dire maintenant, autant là, Happy Sex 2, elle l'a dévoré.
Ouais.
Bonjour Zep.
Bonjour.
Vous n'aimez pas l'expression, je ne dirais donc pas que vous êtes, c'est vrai que c'est con comme expression, le papa de Titeuf, mais vous vous définiriez comment? C'est vraiment, c'est un personnage quand même qui vous colle à la peau, Titeuf, il vous suit partout où vous allez.
Ah bah il me suit depuis bientôt 30 ans maintenant, ouais. Donc... Non, je me sens pas être son papa, mais de plus en plus, j'ai la tronche de son grand-père. Donc, faut que je m'habitue.
Aujourd'hui, vous nous présentez donc une autre BD destinée, elle, seulement aux adultes. Hein, on peut le dire, Happy Sex 2. 10 ans se sont écoulés depuis le tome 1, qui avait déjà été un gros carton. En 10 ans, le sexe, en tout cas notre rapport au sexe, a beaucoup changé.
Disons, mécaniquement, ça fonctionne toujours un petit peu de la même manière, mais il y a pas mal de nouvelles choses. Il y a des nouveaux rites de rencontre, hein, par tous les réseaux sociaux, les sites de rencontre. Ça a pas mal changé. Donc, on peut pratiquer un sexe très conso, c'est-à-dire qu'on va commander son partenaire comme on commanderait une pizza un petit peu. Et on peut avoir des rapports sexuels avec des gens qu'on ne connaît que depuis quelques secondes. Donc ça c'est assez particulier, c'est nouveau. Je pense qu'il y a aussi on est envahi par la pornographie encore plus qu'avant. Donc pour la nouvelle génération qui a appris à faire l'amour par la pornographie, ça donne des comportements assez particuliers quand même. Parce que la pornographie, c'est, même si elle s'est... multipliée, elle n'a pas tellement multiplié son contenu. Ça dit c'est de plus en plus la même chose, on a même réduit de plus en plus le contenu, c'est-à-dire qu'on est passé d'histoires érotiques un peu longues, avec quand même un petit peu de scénario.
À ce qu'on appelle le gonzo.
Voilà, du gonzo, mais du gonzo de 3 minutes, on ne voit plus que le gros plan de la pénétration. Donc, et puis on est face à plein de jeunes qui pensent que l'épanouissement sexuel, c'est l'éjaculation faciale, donc ce n'est pas forcément top.
Et on en parle dans ce livre avec beaucoup d'humour, c'est piquant, c'est grinçant, on adore ça, on en parle bien sûr pendant ces 2 heures. Mais d'abord, il me faut vous présenter les forces en présence. À ma gauche, il a appris tout ce qu'il sait du sexe dans votre fameux guide du zizi sexuel, qui est sa BD de chevet. On ne parlera pas d'obsession, mais c'est vrai que pour un critique cinéma, il a tendance à tout voir à travers ce prisme, y compris dans les films en compétition à Cannes.
Parce que tu la vois à poil tous les 4 matins. Rien que pour ça, le film vaut.
Je vous présente Mathieu Charrier.
C'est scandaleux.
Mathieu, aujourd'hui, Zep oblige, vous ne nous parlez pas de ciné, mais c'est avec votre deuxième casquette, celle de spécialiste BD d'Europe, hein, que vous vous présentez.
On va parler de la bonne santé de la bande dessinée, parce que vous savez, en France, on est toujours que des secteurs culturel, c'est compliqué, dans le cinéma c'est un peu plus compliqué, etc. Il y a un secteur qui va plutôt bien, c'est la bande dessinée, je vous expliquerai tout ça.
Vous nous expliquerez tout ça, mais d'ores et déjà vous pouvez nous le dire. Est-ce que dans la bande dessinée, le problème c'est pas qu'il y en a certains comme Zep qui cartonnent et d'autres qui ont un peu de mal peut-être à surnager.
Disons qu'on vend beaucoup de livres, après il y a certains auteurs qui s'en tirent moins bien que d'autres, effectivement.
À vos côtés, Mathieu, un collègue avec qui, on peut le dire, vous avez fait les 400 coups. On ne sait pas trop ce que vous trafiquiez dans les toilettes, mais vous y avez passé beaucoup de temps.
Je te le montre, mais si t'aimes pas, t'en parles pas.
Bon. On ne veut pas savoir. Bonjour Alain Siroux.
Bonjour Mathieu. Bonjour Zep.
Vous êtes le consultant scientifique d'Europe 1, directeur de la revue Ciel et Espace. Et quand vous vous déplacez, c'est pour gagner. Et pour gagner, vous le savez, il faut des sujets chocs. Ah, là, on peut difficilement faire plus choc, puisque vous allez enfin nous dire, au vu des dernières découvertes scientifiques, si oui ou non, les extraterrestres existent.
Ben oui, entre ceux qui menacent d'attaquer la zone 51 ce week-end et puis les annonces d'observation d'OVNI par l'armée américaine, la question est ne pas... Est-ce qu'on fait l'amour aux extraterrestres? Non, plus sérieusement.
Bah, ils ont plein d'orifices, donc c'est génial.
Existe-t-il réellement? Voilà.
Et la question annexe de Zep, on l'oubliera pas, elle est intéressante. Voilà pour le programme, l'équipe est sauvage, c'est parti.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
Une équipée encore plus sauvage que d'habitude aujourd'hui, puisque nous accueillons donc Zep, le célèbre créateur de Titeuf, qui nous présente, rien que pour nous les adultes, Happy Sex 2. Alors déjà, j'insiste là-dessus, car vu que Titeuf s'adresse aux adultes mais aussi aux enfants, il pourrait y avoir une petite confusion. Happy Sex 2, c'est juste pour les grands. Hein. Quand on ouvre ce livre, ce que je ne ferai pas là sur Europe 1.fr, c'est très explicite quand même. Hein.
On peut dire c'est pornographique.
Non,
vous ne définirez pas comme ça.
C'est pas pornographique parce que c'est pas destiné à exciter le lecteur.
Non,
c'est un album d'humour, mais c'est
bien
un album d'humour pour les grands. Bon, c'est écrit Happy Sex sur la couverture. Il est vendu emballé dans du plastique avec un sticker réservé aux adultes. J'ai l'impression qu'on a ceux qui iront jusqu'à l'ouvrir, ils devraient être un petit peu avertis. Quand même.
Certainement. Vous avez deux enfants. Ils ont l'âge de lire Happy Sex ou...
J'en ai cinq.
Vous avez cinq enfants.
Ouais,
mes fiches sont bien faites, hein, j'embrasse. Bravo. Mais vous avez été très productif.
C'est les fiches du Happy Sex 1.
Ça doit être ça. Ils ont l'âge. Donc, dans les cinq, j'imagine qu'il y en a qui ont l'âge de lire ça.
Il y en a deux qui ont l'âge. Il y en a deux qui ont l'âge. Les autres n'ont pas l'âge, mais je les soupçonne d'avoir déjà été voir un petit peu ce qui se passe. Moi, ça ne me semble pas très inquiétant si des enfants regardent Happy Sex. Enfin, c'est toujours mieux de voir ça que de voir de la pornographie
sachant
sur Internet.
Ils la voient de plus en plus tôt,
voilà,
de toute
exactement.
Façon.
Je pense que tous les enfants qui ont 10 ans maintenant ont été confrontés à de la pornographie. Mes enfants qui en ont vu, j'ai l'impression que ça les a plus fait rigoler qu'autre chose.
Donc, et je dirais même que ça a une vertu thérapeutique, c'est-à-dire que quand on est très jeune, adolescent ou pré-adolescent et qu'on tombe sur des images porno, ça peut être un peu choquant, on se dit, on est dans un culte de la performance, on dit est-ce que je vais faire pareil, machin. Là, si on lit Happy Sex, ça dédramatise quelque part.
On est dans un truc plus réel.
On en rigole, quoi.
Voilà, on est dans un truc plus réel. Et la pornographie sur Internet, le problème, c'est qu'on ne dit pas que c'est de la comédie, mais ce sont des acteurs. Donc,
il ne faut jamais l'oublier. Eva, vous vouliez ajouter quelque chose?
Non.
Parce que vous y connaissez un tout petit peu, hein,
dire. Non, je me demandais si vous étiez inspiré aussi de ce que pouvaient vous raconter vos enfants.
Non, alors ils sont très pudiques de ce côté-là. Enfin,
n'oubliez pas qu'on est en Suisse, hein, c'est calviniste, on ne dit pas tout. Hein. Mathieu Charrier.
En revanche, il s'est inspiré de son propre corps, je crois.
Ah bah c'est-à-dire que je suis mon premier modèle, voilà, donc c'est pas toujours facile de trouver quelqu'un qui veut poser pour vous, comme par bonheur je suis tout seul dans mon atelier, donc...
J'ai regardé la bande dessinée.
Donc Zep, page 21,
oui.
Franchement, je vous dis bravo.
Ça c'est le métier de dessinateur, hein. On fait de la caricature aussi. Donc.
C'est vous. Le tome 2 de Happy Sex, le cadeau idéal pour les 60 ans de votre belle-mère ce week-end, est disponible aux éditions Delcourt. Zep, passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
Happy Sex 2, c'est 60 planches, 60 moments hauts en couleur de la vie sexuelle. Chacun pourra se reconnaître, et peut-être certains plus que d'autres.
Vous me saoulez.
Car le moment n'est pas encore venu. Mais il se pourrait que tout à l'heure, Eva Rock lève le voile sur une mésaventure qu'elle a vécue et qui pourrait faire l'objet d'une de ces planches hautes en couleur. Un moment de vie qui aurait sa place dans Happy Sex 3. Écoutez la musique. Ça vous rappelle quelque chose?
Oui.
Et oui, à suivre, comme moi et toute la génération qui a grandi avec E.T. et le journal du Hard, vous avez deux obsessions, le sexe et savoir quand les extraterrestres vont arriver. Alain Sirou, notre expert
comment
scientifique.
Comment vous dites les extraterrestres?
Oui, bon, ça va bien, Charrier, ça va bien. N'oubliez pas, Mathieu Charrier, que j'ai un point, moi aussi.
Vrai.
Et que si je ne vous le donne pas, vous perdez. Donc, j'ai dit les extraterrestres. Mais quand vont-ils arriver? Alain Sirou, notre expert scientifique, va répondre à l'une de ces deux obsessions. A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue. 2 heures pour comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire. 2 heures aussi d'une compétition redoutable entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui se tirent la bourre pour vous offrir la chronique la plus palpitante. Sous l'œil d'un invité arbitre aujourd'hui, c'est l'auteur de BD Zep qui nous accompagne. Non pas pour un nouveau Titeuf, dommage pour mon fils, mais d'un nouveau volume de Happy Sex, extase pour Eva.
Oh putain, ouais.
Non mais lâchez-le Eva, moi aussi j'aimerais lire le bouquin 60 situations de la vie sexuelle contemporaine où chacun va se reconnaître. Le premier tome, on l'a dit, c'était il y a 10 ans. Et en 10 ans, de nouvelles pratiques sont apparues, liées notamment aux applis de rencontre. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous avez eu envie de croquer, Zep, au sens de dessiner bien sûr, dans les nouvelles pratiques contemporaines? Les applis de rencontre, ça a tout changé.
Les applis de rencontre, le sexe connecté, c'est pas forcément une pratique qui prend beaucoup de place. Mais enfin, je pense que tous ceux qui ont essayé... C'est assez propice à raconter des gags, enfin, ce truc d'avoir des sextoys connectés où on peut faire l'amour à distance, ça marche jamais, vous savez, c'est comme le wifi, quoi. Il y a toujours... ça plante, donc c'est l'extase, elle est rarement là, quoi.
On continue de parler de cette BD réjouissante Happy Sex 2, cadeau idéal si vous rencontrez votre future belle famille pour la première fois, mais l'heure est venue d'ouvrir les hostilités avec quelqu'un qui nous promet beaucoup pour tous les fans d'E.T.
Téléphone maison.
Les fans d'E.T. et de Jeanne Moreau, c'est la question. C'est la question, c'est elle qui double. Les extraterrestres existent-ils, oui ou non? Et si oui, pourquoi ne nous font-ils pas coucou? Alain Sirou, si quelqu'un est au courant de quelque chose, c'est vous, puisque vous dirigez la revue Ciel et Espace.
Oui, absolument, pour la revue Ciel et Espace.
Alors, ils vous ont contacté, c'est vrai.
Alors, il y a deux questions. Les extraterrestres existent-ils? Pour l'instant, nous n'en savons rien, mais nous allons faire une hypothèse, oui. Et cette hypothèse, c'est finalement... S'ils existent, pourquoi sont-ils silencieux? Alors, et pourquoi on pense qu'ils devraient déjà être là? La réponse est assez simple, c'est que nous vivons sur la Terre, nous les Homo sapiens, depuis 2 millions d'années, 3 millions d'années, autour d'une étoile qui a 5 milliards d'années et dans une galaxie qui a à peu près 13 milliards d'années. Donc ça veut dire que si quelque part, autour d'une étoile, dans la galaxie, il y a la même chose, il s'est produit la même chose que chez nous, il n'y a rien qui permet de penser que ça ne se soit pas produit 100 millions d'années plus tôt. Un milliard d'années plus tôt. Et nous, on est dans l'espace depuis 50 ans. On accède à l'espace depuis 50 ans. Donc si une civilisation existe, elle a dû se déplacer dans la galaxie.
Mais pourquoi ils ne sont peut-être pas avancés technologiquement?
Alors ça, c'est la, ils sont la peut-être réponse complètement à la teubés. Deuxième question. Mais la première observation, c'est de dire que les calculs montrent qu'il existe en fait la possibilité de se déplacer dans la galaxie, qu'il faudrait à peu près 100 millions d'années pour la coloniser s'il y avait des extraterrestres avec des véhicules.
Ah oui.
Première observation. Deuxième observation, c'est pourquoi finalement on ne les voit pas? Pourquoi sont-ils silencieux? Pourquoi ne sont-ils pas là? Alors, il y a beaucoup de réponses.
Nelson Montfort, lui, les a vus.
Alors, la première réponse, c'est qu'ils n'ont pas établi le contact. Pour une raison... Alors, il y a plein de raisons. Les voyages interstellaires sont peut-être impossibles.
Et l'attrait touristique de la Terre, il est assez nul, peut-être.
Alors, non, vous avez raison, ça fait partie des hypothèses. On appelle ça l'hypothèse du zoo cosmique. C'est même pire que ce que vous imaginez. Ah oui. C'est-à-dire qu'on peut considérer, certains pensent, que les extraterrestres ne nous contactent pas parce qu'on n'est pas fréquentable.
Mais peut-être qu'ils nous observent.
Peut-être qu'ils nous observent, mais en tout cas, ils attendent en se disant « Ouh là là, vous savez, c'est comme la civilisation qui existe en plein milieu de l'Amazonie et qu'on découvre la première fois. On leur offre des t-shirts et des tas de choses. 2 ans plus tard, ils ont la variole et ils ont disparu. »
Ah, donc peut-être qu'ils nous préservent.
Peut-être qu'ils nous préservent. D'autres pensent qu'effectivement, ils ne sont pas pacifiques et qu'il ne faut surtout pas se manifester. Parce que c'est le mythe du croque-mitaine, vous voyez, ils pourraient nous tomber dessus. D'autres pensent que ça ne les intéresse pas du tout. Qu'ils auraient développé des valeurs spirituelles, que finalement, ils auraient peut-être été très écolos par rapport à leur planète et se déplacer dans l'univers, c'est beaucoup d'énergie, donc c'est pas une bonne idée de se déplacer dans l'univers. D'autres pensent qu'ils ont adopté la croissance zéro.
C'est très anthropomorphique quand même comme raisonnement.
Tout à fait. Ils sont absolument.
D'autres pensent que croissance même.
D'autres pensent que c'est la vie qui crée de l'instabilité et que finalement, on va pas rester très longtemps parce qu'on est en train de faire un tel bazar sur la planète que d'ici là, voyager dans l'univers, c'est très compliqué. Et puis, d'autres pensent tout simplement que ils sont tellement différents qu'il est impossible d'établir le contact. Quelle est la conclusion de ça? Peut-être qu'on peut l'emprunter à Pierre Dac. Parce que vous apprécierez sans doute, c'est que Pierre Dac disait la seule preuve qu'il existe une forme d'intelligence extraterrestre est qu'elle n'a pas essayé de nous contacter.
Ah ben oui.
Bien joué, Alain Siroux. Vous nous faites réfléchir à chaque fois. Hein.
Oui, c'est un métier.
Mais on n'a pas la réponse quand même.
On n'a pas la réponse. Vous pensiez vraiment la voir?
Vous savez,
c'était juste un teasing.
Ouais, je suis un peu déçu.
Merci, Alain Siroux. Votre chronique sur l'existence extraterrestre aura-t-elle piqué la curiosité de nos auditeurs et de notre invité Zep, dont la voix comptera triple, je le rappelle? Réponse juste avant 18h. Mathieu Charrier, votre avis objectif et pondéré sur cette chronique?
C'est de la merde.
Merci. Merci. C'est ça aussi le Fair Play Europe 1. Il publie Happy Sex 2, une BD hilarante qui croque nos mœurs sexuelles réservées aux adultes. Zep est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipée sauvage continue, avouons-le, dans une tension érotique inhabituelle. C'est peut-être dû à nos lectures du moment. C'est bizarre, en temps normal, on n'est pourtant pas très porté sur la chose.
Oh, t'as pas toujours dit ça.
Oui, bon, Eva, ça va bien. Et il y a ce qu'on dit à l'antenne et ce qu'on dit hors antenne. Bref, la compétition continue. Dans quelques instants, Mathieu Charrier nous parlera des chiffres de vente des BD. Et là aussi, attention Mathieu, un peu de tact en présence de Zep, le créateur de Titeuf. Il y a des chiffres officiels qu'on donne au fisc. Les 16 albums de Titeuf sont vendus à 10 000, 12 000 exemplaires, je crois, maximum. Hein, surtout, ne donnez pas les autres chiffres. Hein, les autres chiffres. Oh non. Discrètement. Discrètement.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Le sexe serait-il de moins en moins tabou? Il fut une époque pas si lointaine où, lorsqu'elle commandait des sextoys sur Amazon, mes collègues Eva Rock et Anne Le Gall usaient d'un langage codé.
On recevra nos plantes mardi. Il y a 3 petites fougères, un grand yucca pour mettre derrière et un petit bonsaï. Enfin, je crois, je sais plus.
Nos mœurs évoluent, nos pratiques aussi. Et ce qui est éminemment sympathique, c'est de rire de tout ça, Eva, évidemment.
C'est
ce que
con,
fait admirablement... C'est vrai que je suis con, je le concède un peu. Rire du sexe, c'est ce que fait admirablement Zep dans sa BD Happy Sex 2, BD réservée aux adultes, on le rappelle, mais sacrément jubilatoire. Il y a quel pourcentage de vécu dans ces 60 plans, je ne sais pas franchement. Parce qu'il y a même des situations très très
cocasses. Il y a 17% de vécu.
17% de vécu. On ne peut pas dire lesquels.
Alors, pas celle avec le grand yuka. En tout cas.
Ah, celle-ci, non. Eva ?
Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que vous évoquez beaucoup les pratiques qui sont dues aux sites de rencontres. Mais moi, une chose qui m'a marquée aussi, c'est toute la sexualité post-MeToo. On a l'impression que vous l'avez vraiment pris en compte et la différence des relations entre hommes et femmes. Les femmes sont extrêmement présentes et vous les mettez en valeur à travers vos planches.
Ouais, c'est quelque chose qui a changé. Je me suis pas vraiment rendu compte en le faisant, mais c'est vrai qu'en le lisant à la sortie par rapport au tome 1, les femmes sont plus sont des personnages qui revendiquent plus le plaisir, le droit à l'orgasme, de choisir leur sexualité. Mais ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé en 10 ans. MeToo a fait beaucoup pour ça. Et le droit aussi de... Aujourd'hui, on peut parler de masturbation, c'est plus quelque chose de honteux, c'est plus synonyme d'une pauvre sexualité. Au contraire, ça fait partie de l'épanouissement personnel. Et c'est vrai que quand on va, c'est plus des sex shops qui étaient un peu sordides il y a 20 ans. Aujourd'hui, ça s'appelle les love shops. Ça ressemble vraiment à un magasin de jouets. On a envie de tout acheter. Tout est vachement joli. Ça ressemble à des trucs designés.
Le jour, mon fils m'y a emmené l'autre jour. Il est entré dans le magasin. J'ai pas eu le temps Il est entré. Il a dit, ah, c'est rigolo. Et j'ai dit, ah oui.
Le temps que je comprenne. De couleurs, c'est génial.
Il y a un clin d'œil à Titeuf d'ailleurs, parce qu'il y en a un de sextoys que vous représentez avec la tête de Titeuf.
Il y a un sextoy Titeuf. Il n'existe pas.
C'est dommage.
On attend la proposition.
Il y a qu'une seule planche avec un couple homo dedans, c'est calculé, pourquoi pas plus de couples homo?
Non, c'est pas calculé. En fait, moi, j'écris beaucoup d'histoires, enfin, je les fais sous forme de storyboard, c'est dessiné de manière un peu plus simple. J'en ai fait 130 pour en garder 60.
D'accord.
Donc, après, je garde celles qui sont le plus marrantes, et c'est vrai que c'est plus mon truc de raconter des histoires de couple hétéro. Donc, mes blagues homo n'étaient pas top. J'en ai gardé qu'une, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs homo qui font de la BD, qui racontent des trucs super, donc c'est moins... J'avais l'impression que c'était un terrain où j'avais moins de légitimité à aller raconter des gags.
Vous avez donc sélectionné en gros 60 planches par rapport à 130 à peu près que vous aviez dessinées ou prédessinées. C'est quoi les critères de sélection? C'est juste la force du gag ou c'est parfois vous êtes censuré parce que certains trucs vous avez dit ça c'est too much, c'est trop trash?
Non, c'est vraiment le degré de rigolade. Si je le fais lire à deux, j'ai deux lecteurs, mon éditeur et mon épouse, et puis je regarde ceux qui marchent le mieux. Et voilà, c'est ceux que je garde. Non, il n'y a pas de censure. De toute façon, tout est, enfin, c'est assez explicite, donc il n'y a pas de truc qui serait pire que ça.
Il a inventé ce petit personnage qui fait partie de nos vies et qui s'appelle Titeuf. Il signe pour un public adulte cette fois Happy Sex 2. Zep est notre invité jusqu'à 18h. Tenez, regardez page 12, Eva. Ça vous rappelle pas quelqu'un?
J'embrasse Laurent Cabrol.
On l'embrasse. Europe 1. L'équipe est sauvage.
Le pire,
continue.
C'est que je vais regarder page 12.
Deux heures pour peaufiner votre culture générale tout en notant les meilleurs journalistes d'Europe 1. Le gagnant aura droit à une couronne en plastique. La contre-performance des autres sera signalée au DRH de la radio. À suivre, on vous révélera les vrais chiffres de vente de la bande dessinée et on parlera de ce qui n'est pas un tabou dans le monde de l'entreprise et qui est même désormais encouragé dans certaines.
La sexothérapie.
Non, Eva, ça pas encore, mais ça vient. La sieste. Un petit dodo pour être plus productif ensuite. Que dit la science? À tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Est-ce lié au fait qu'on reçoit Zep pour son album Happy Sex réservé aux adultes? Mais il règne en studio une drôle d'ambiance. Jamais auparavant dans l'équipe est sauvage, on avait vu un journaliste, en l'occurrence Mathieu Charrier, faire frire un œuf directement sur la poitrine d'Eva Rock. Vous ajoutez même le bacon? C'est très chaud cet après-midi sur Europe 1 dans le studio Coluche. La faute donc à Zep qui publie chez Delcourt Happy Sex volume 2. Vous dites Zep au sujet du plaisir féminin. On en parle beaucoup plus maintenant qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était le premier tome de Happy Sex. Et plus seulement dans la presse féminine. Vous voulez dire qu'il y a beaucoup plus d'hommes aujourd'hui qui connaissent l'existence du clitoris qu'il y a 10 ans?
Oui, je pense qu'on a encore beaucoup à besoin d'un GPS pour le trouver, mais on a progressé. Disons que si on procède par cercle concentrique, d'ici 10 ans, je pense qu'on y est.
Tout le monde.
Ouais, c'est bon, rassurons sera bon les femmes. L'orgasme est proche.
Oui, vous parlez comme un politicien. On continue de feuilleter Happy Sex volume 2 avec son auteur Zep, mais la compétition continue avec l'entrée en piste d'un journaliste qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il est le vice-chef adjoint délégué du service culture d'Europe 1. Avec 11 points à son compteur, il fait partie des meilleurs, mais... Son côté filou n'a pas échappé à notre invité mercredi, Alexis Michalik, qui lui a fait payer cash au moment du vote.
clairement, Mathieu, il a pompé un article de Sofine, donc je vais pas.
Quand on a l'honnêteté de citer ses sources.
Oui, oui, bah oui, bravo Balkany.
Son nouveau surnom, le Balkany du News, lui portera-t-il chance? Mathieu Charrier, c'est à vous. Dans quel magazine avez-vous pompé? Bah, je veux dire, quel est votre sujet aujourd'hui?
Je voulais vous parler de la bonne santé de la bande dessinée, parce que vous savez, on dit beaucoup que le secteur culturel c'est un petit peu compliqué, que la vente de l'édition. Musique sont en baisse, que l'édition c'est compliqué. Alors effectivement, les romans se vendent moins, mais il y a un secteur dans le monde de l'édition qui va bien, c'est celui de la bande dessinée. Je vous donne un chiffre, en 2018, la BD a rapporté 510 millions d'euros, c'est 11 de plus que l'année d'avant, et c'est surtout en 2013, on était à 425 millions d'euros seulement, donc 85 de moins. C'est un secteur qui se porte bien, et à l'intérieur même de ce secteur, vous avez un style de bande dessinée qui cartonne, c'est...
La BD humoristique.
Non. Le manga,
ah,
messieurs
dames. Le manga.
Plus d'un tiers des ventes aujourd'hui de bande dessinée sont des mangas. Alors vous allez me demander pourquoi ?
Pourquoi ?
Mais je vous le demande.
Mais
pourquoi,
voilà, Mathieu Charrier. Bah, évidemment, si on le savait, ce serait formidable. Non, il y a une première
ne vous posez pas des questions dont vous n'avez pas la réponse, Mathieu. C'est le principe de base du journalisme.
Ce qu'on déduit, c'est qu'il y a la culture asiatique qui est quand même beaucoup arrivée en France dans les années 90, notamment toute la génération des années 80.
Dragon Ball.
Exactement. Goldorak, Candy, Dragon, Naruto, vous vous rappelez de tout ça. Mm-hmm. Donc, tous ces jeunes biberonnés à la culture asiatique et à la culture manga à la télévision, dans les dessins animés qu'ils pouvaient voir. Aujourd'hui, certains sont arrivés dans les maisons d'édition, ont monté des départements manga, développent les départements manga. Et comme ça se vend bien, évidemment, eh ben, ils continuent à avoir de l'argent pour le faire. Il y a même le dernier festival Angoulême, j'ai découvert qu'aujourd'hui, il y avait des écoles de manga en France. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui sont formés à dessiner uniquement du manga.
Mais alors, ça veut dire que la bande dessinée franco-belge, elle se vend moins bien ?
Elle se vend aussi bien, on va dire. C'est-à-dire que c'est un secteur qui est plus stable, mais qui est tiré par des gros mastodontes dont font partie notamment Zep. Par contre, il y a une contrepartie à cette bonne santé de la bande dessinée. C'est qu'évidemment, pour continuer à vendre beaucoup de titres, les éditeurs, ils sont obligés de multiplier les titres. Vous savez, on fait de l'offre, beaucoup d'offres, et puis le public, du coup, choisit dans cette offre et achète beaucoup de bandes dessinées. On estime quand même que chaque année, il y a un peu plus de 5000 bandes dessinées nouvelles qui sont sorties, qui sortent. Vous imaginez, ça fait plus de 10 par jour. Alors là-dedans, il y a beaucoup de choses, évidemment, dont on n'entendra jamais parler. Mais du coup, c'est la contrepartie. C'est que vous avez beaucoup d'auteurs, certains auteurs qui arrivent à vivre de la bande dessinée et d'autres qui en vivent beaucoup moins bien. Il y avait une étude qui avait été faite par l'Association des critiques de bande dessinée qui disait qu'il y a un tiers des auteurs de BD en France aujourd'hui qui vivent sous le seuil de pauvreté, comme beaucoup d'artistes. Hein, mais parce que, ben voilà, c'est une passion. Ils veulent vivre de leur passion. Mais aujourd'hui, vous avez certains auteurs qui, pour réaliser une bande dessinée, touchent une avance de 5 000 euros. Il faut imaginer qu'une bande dessinée, je parle sous le contrôle d'un professionnel, mais ça ne se dessine pas en 3 jours, vous imaginez bien. Ça peut être plusieurs mois, voire plusieurs années de travail. Donc vous devez vivre avec très peu pendant plusieurs années. Si bien qu'il y a un débat d'ailleurs qui s'est ouvert, parce que dans tous les grands salons aujourd'hui, et nos auditeurs le savent, quand vous allez dans les grands salons de bande dessinée, vous faites dédicacer vos bandes dessinées. C'est génial, vous avez votre petit moment privilégié avec l'auteur, vous pouvez discuter avec lui, puis surtout vous repartez avec votre album dédicacé. Sauf que les auteurs, et notamment ceux qui s'en sortent le moins bien, commencent à dire... Bah ouais, mais nous, c'est du temps de travail pour nous, c'est du temps où on nous fait venir, et on demande à être rémunéré pour ces dédicaces.
Ce qui n'est pas le cas.
Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais ce qui est très compliqué. En Angoulême, vous avez des centaines, voire des milliers d'auteurs qui dédicacent. Qui va payer ? Est-ce que c'est le salon ? Et dans ce cas-là, il n'y a plus de salon. Est-ce que c'est les éditeurs ? Et dans ce cas-là, les éditeurs, ils vont dire non, on ne peut plus aller à Angoulême parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les dédicaces en plus du stand et de tout ce qui va autour. Donc voilà, c'est un secteur qui se porte bien, mais il y a beaucoup de questions qui s'ouvrent et voilà, des petits bémols à l'intérieur de tout ça.
Zep, est-ce que c'est possible pour les jeunes auditeurs qui nous écoutent et qui ont le goût du dessin et de la BD, est-ce que c'est possible de devenir Zep aujourd'hui, en 2019? Est-ce qu'en se lançant aujourd'hui, vu la concurrence, vous dites qu'il y a 10 BD qui sortent par jour, est-ce que c'est possible de forger une carrière comme vous avez réussi à faire, où il y a trop de concurrence aujourd'hui?
Oh ben c'est toujours possible, mais c'est plus difficile que quand moi j'ai commencé. Il y a beaucoup plus de monde, effectivement.
Et pourquoi ? Parce que la BD est devenue un art, pas majeur, ça ne veut plus rien dire, mais genre, c'est devenu le 9e art populaire.
Oui,
et donc, on pousse les jeunes dans cette voie aussi. C'est quelque chose de très respecté maintenant, la BD.
Ben oui, enfin, ceux qui ont grandi, les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, ont grandi en lisant plus de bandes dessinées que ma génération. Donc, c'est devenu un métier qui existe vraiment, que plein d'enfants ont eu envie de faire. Il y a des écoles de bandes dessinées. Et comme vous le dites, on a multiplié les titres, donc d'une certaine manière, il y a plus de demandes d'auteurs, mais voilà, on a augmenté les ventes, mais en multipliant massivement les titres, donc de manière générale, tous les auteurs vendent beaucoup moins qu'avant.
Mmh. Alain Sirou.
Oui, c'était ma question vache.
Eh ben oui, mais alors attendez, il y a le jingle. Voici la question vache de l'autre chroniqueur.
Il adore le jingle.
Mais c'est ton jingle, parce que Mathieu a traité Zep de gros mastodonte.
C'est
parce
vrai,
que mastodonte, c'est
déjà, c'était pas très classe. Ouais, ouais. Il a failli perdre son point. Ouais, avec ça. Ouais.
Non, je voulais lui demander s'il savait, Mathieu, quand a été inventée la bande dessinée?
Ah, c'est au début du XXe siècle.
Mm-hmm. Vous êtes sûr de ça?
Oui.
Il y a deux réponses. La première, c'est au paléolithique supérieur.
Ah oui,
il y a 35 000 ans où l'homme, dans les cavernes, commençait à dessiner. C'est l'art pariétal, l'art rupestre. Et puis après, deuxième, mais elle est intéressante.
En fait, il prépare ses questions vaches, il a même les notes pour ses réponses vaches.
C'est incroyable. Ça a été inventé en Suisse par Rodolphe Töpffer, 1827, avec l'histoire de Monsieur Jabot. Mm-hmm.
En incroyable. Suisse. En Suisse, vous êtes sûr?
Absolument, oui.
Ouais, bien décidément.
Sûr.
Bien sûr, comme on dit, il n'y en a point comme nous. On dit. Merci Mathieu Charrier. Et puisqu'on parle sexe aujourd'hui et qu'on se dit tout avec notre invité Zep, auteur de Happy Sex 2, vous durez combien de temps, vous, en moyenne? 10, 12 minutes?
Budget marketing inclus.
Pas mal, Charrier. Europe 1. Eva Rock, Mathieu Charrier, Alain Sirou sont à mes côtés. L'équipée sauvage continue 2 heures d'une compétition haletante opposant les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui défilent au micro pour essayer de vous proposer l'info la plus étonnante, l'histoire la plus bluffante. Mais arrive ce moment qu'on adore, Eva.
Le sexe.
Non, Eva, non. Le quiz. Chaque jour, notre invité affronte la meilleure d'entre nous, Eva Rock. Et aujourd'hui, Eva, pour peu que votre mémoire à long terme soit bonne, vous avez une chance de gagner puisque notre quiz portera sur le sexe. Vous vous souvenez de 2-3 trucs quand même? Ah, l'été 67, elle se souvient. Parce que c'est quand même que le cerveau, à tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Bonne humeur, découverte en tout genre. Vous écoutez l'équipée sauvage, l'émission préférée de Meg Ryan, qui la première fois qu'elle l'a entendue se serait exclamée.
Oh, oui, oh, oui, oui. Oh oui.
Oui, mais on espère que chez vous, vous ne simulez pas, on serait très vexés. Vous l'avez compris, nous avons lu Happy Sex, volume 2, la BD coquine et drôle de Zep, qui est notre invité aujourd'hui. Zep, on entendait Meg Ryan hurler de plaisir à l'instant dans le célèbre film Harry rencontre Sally. Vous avez une belle image pour décrire ce mystère qu'est pour nous, les hommes, l'orgasme féminin. Vous dites, nous, on l'a quasiment à chaque fois. En revanche, c'est un peu la cathédrale contre la tente de camping. J'adore cette définition. C'est vrai, on a l'impression que les femmes sont plus gâtées de ce côté-là. Ça a l'air d'être quelque chose d'incroyable.
Ne me regardez pas, regardez votre invité.
Mais je vous regarde Eva parce que c'est vous qui pouvez témoigner autour de cette table.
Mais non, je ne sais pas moi.
Cathédrale ou tente de camping?
N'importe quoi.
Zep, on plaisante, mais l'heure n'est plus à la rigolade puisque nous allons maintenant passer au quiz. Serez-vous un aussi féroce compétiteur que notre invité d'hier, Yannick Agnel, qui déclarait à Eva avant le quiz
« Toi, je vais te défoncer. »
Ce qui, hélas, n'a pas eu l'effet d'intimidation escompté, au contraire. Bref, vous êtes prêts? Vous êtes prêts?
Ah oui, moi
c'est
je
parti,
suis prête.
Oui.
Ça va partir.
Okay.
C'est un vrai faux sur le sexe. Vous répondez chacun votre tour. Chaque bonne réponse vaut un point. Jusque-là, c'est simple. Zep, Gordon Smith vit en Nouvelle-Zélande. Il commercialise des poupées gonflables de personnalité. Vous pouvez en acheter une sur son site Rubber Sex Star à l'effigie de Céline Dion. Vrai ou faux?
Vrai.
Faux. Mais c'est une idée à creuser,
ah, oui.
Ou pas. Il y a plusieurs personnalités, mais pas encore Céline.
Il y en aurait une, Mathieu Noël.
Non, je vous en prie, une personnalité, on a dit. Eva Rock, le pH est une unité de mesure de l'acidité. Eh bien, le vagin a le même pH que la bière. Vrai ou faux?
C'est possible, parce que...
Mais je vous demande pas de savoir si c'est possible.
Ouais,
je dirais oui. Vous dites oui, vous avez raison.
Oui.
Hein, on me met des sons pour me surprendre aussi. Oui, entre 4,3 et 4,5, c'est une moyenne. Effectivement, le même pH que la bière. Attention, une question, 3 propositions. Je m'adresse à tous les deux. Vous répondez, qui sont Albert Kirchner et Eugène Pirou? 1. Les inventeurs du premier sextoy à pile. 2. Les premiers réalisateurs de films érotiques. 3. Les vrais noms des mystérieux Jackie et Michel.
Parce que se mettre à deux pour inventer le sextoy à pile, ça me semble un peu fou. Non.
Il procède par élimination. Zep est très fort. Effectivement, ça paraît un peu con cette réponse.
Bon, allez, je dis Jackie et Michel.
Vous dites Jackie et Michel. Mathieu Charrier ne dit pas Jackie et Michel. Eva, qu'est-ce que vous dites?
Les créateurs du porno, non?
Les créateurs du porno, effectivement. Ouais. Réponse 2. Deux cinéastes à qui on doit le premier film érotique. D'après vous, c'était en quelle année?
Érotique ou pornographique? Érotique. Hein. Si c'est érotique, c'est fin du 19e, je dirais. Non?
Eva, vous m'épatez aujourd'hui. Effectivement, Le coucher de la mariée, sorti en 1896, sachant que les frères Lumière ont inventé le cinématographe l'année d'avant. Comme quoi, on s'est précipité pour faire des films porno dès le début. Eva Rock.
Je rêve, il y a 2 points.
Oui, c'est ouais, inouï. Les poux mâles ont 2 paires de testicules, vrai ou faux?
c'est quoi?
Pourtant, ils sont tout petits, mais...
C'est quoi? C'est un animal?
Les poux, vous savez.
Ah, les poux mâles.
La vache.
Oh, c'est pas le pou mâle tout attaché. Hein.
Il est temps que cette semaine se termine, les amis. Hein. Oui, les poux, oui.
Non, j'en sais rien, non.
Non, eh bien, c'est vrai. 2 paires de testicules, ça fait combien, Eva?
4.
4 quoi?
Testicules.
Bien. Et ce n'est pas de trop, car ils peuvent féconder 18 femelles à la suite. À la suite. Zep, Avant, la NASA proposait aux astronautes trois tailles de tubes à urine pour les combinaisons spatiales. Petit, moyen et grand. Mais ils ont arrêté car personne ne prenait le petit. Vrai ou faux ?
Vrai.
C'est vrai. C'est vrai. On est passé de petit, moyen, grand à grand, géant, gigantesque. Car trop d'astronautes se surestimaient et ça causait des fuites dangereuses. C'est Eva. C'est historique. Eva, vous remportez un quiz.
C'est pas étonnant vu le thème du quiz.
Oui.
C'est vrai que je dois dire que si une personne s'y connaît mieux que Zep en sexe, c'est bien Eva Rock. Son album va vous faire marrer ou vous inspirer. Happy Sex, volume 2 est disponible aux éditions Delcourt. Zep passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
L'équipe est sauvage et d'humeur coquine en ce vendredi. Et c'est vrai que dans l'équipe, à part Mathieu Charrier qui n'est pas très doué...
Et doit faire appel à sa grand-mère pour l'aider.
Oui, on est tous assez portés sur la chose, surtout Alain Sirou.
J'ai deux passions dans la vie, la sexualité de groupe et les maisons normandes.
Un drôle de bonhomme que cet Alain Sirou. Et si on faisait une petite sieste ? Pas là tout de suite, pas forcément ensemble, mais au bureau. La question, figurez-vous, n'est plus taboue. Certaines entreprises invitent même leurs salariés à s'octroyer une pause dodo après le déjeuner. On vous dit comment ça se passe juste après Jeanne Chéral, l'an 40 sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour détendre vos zygomatiques sans pour autant éteindre votre cerveau. 2 heures également d'une féroce compétition entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui croisent le fer au service de votre culture G. Une bataille éreintante, même pour ceux qui ne sont pas en compétition, comme Eva Rock. Eva, qui sachant qu'elle a déjà du mal le lundi, attaque le vendredi avec vraiment l'énergie du désespoir.
Je crois que je vais avoir besoin d'un café, je suis en train de tomber.
Vous aussi, vos employés manquent de tonus, et si vous leur faisiez faire une sieste, comme en maternelle ? Certaines entreprises ont déjà franchi le pas. Bonjour Lionel Gougelot.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors, il faut se détendre, fermer les yeux, sauf si vous êtes en voiture, évidemment, puisque Lionel, vous nous emmenez faire la sieste à Roubaix, ouais, dans une salle de sieste mise à disposition des 200 salariés d'une ruche d'entreprise. Expliquez-nous le concept.
Alors, c'est une idée de la société Ilobed, bed comme lit, hein, évidemment, qui conçoit et qui commercialise des matelas. Et sa fondatrice, Chloé Bonin, eh bien, elle a eu l'idée toute simple d'ouvrir cette salle de sieste dans le bâtiment Blanche-Maille à Roubaix. C'est un bâtiment qui regroupe toute une série de start-up pour le bien-être des salariés, mais aussi pour faire tester son produit.
En fait, on s'est dit, mais pourquoi pas en faire profiter tout l'écosystème de Blanche-Maille, et c'est pour ça qu'on a ouvert cette salle de sieste. Et donc, tout le monde peut venir profiter de la salle de sieste en réservant un petit créneau sur un calendrier en ligne. Nous, notre concept, c'est de vendre un sommier et un matelas. Après, tout ce qui est linge de lit, on l'a mis en place pour la salle de sieste. Et après, les gens peuvent profiter d'un petit thé, d'un petit magazine, d'un masque de sommeil. On a aussi proposé des playlists à charger sur son portable.
Des playlists ? On peut s'endormir en musique, Lionel ?
Oui, tout juste, notamment avec ça. Tiens, écoutez. Bon, alors...
Eva dort déjà. C'est non, plutôt cool. Perdu.
C'est plutôt cool, mais figurez-vous que c'est là-dessus que s'endort Benjamin. Alors, Benjamin, il est chargé de projet web marketing dans une boîte qui se trouve juste à côté, à l'étage de la salle de sieste.
Le secret, c'est de se dire qu'en fait, on va vraiment dormir. Il faut juste se laisser aller, en fait. Après 20 minutes de somme, on est reparti pour 2 heures, 3 heures, sans trop de difficultés. Donc c'est vrai qu'avoir la petite salle à côté qui permet de concrètement recharger les batteries pour en plein milieu de la journée, c'est pas mal. Ouais.
Quand vous partez faire une petite sieste, là, les collègues, ils vous regardent pas quand même un peu de travers ?
Non, et quand même, personnellement, je... Au contraire, ça les fait plutôt rire qu'autre chose.
Mais est-ce que ça marche vraiment, Lionel ?
Bah, oui, ça a l'air de séduire de plus en plus de salariés, même si en France, on va pas se mentir, hein, ça reste quand même une histoire de feignant. Eh bien, Chloé, elle pense qu'on devrait prendre exemple sur d'autres pays.
En Chine, on vous dirait que si vous faites pas la sieste au travail, c'est que vous avez pas été suffisamment efficace, vous n'avez pas bien travaillé, donc il y en a qui font semblant de faire la sieste pour montrer à leur patron qu'ils travaillent bien.
Pas mal, hein ?
C'est pas mal.
Alors en plus, c'est, évidemment, tout le monde le sait, c'est bon pour la santé. Figurez-vous que j'ai lu dans une étude suisse, mon cher Mathieu,
mais
que
ça, c'est une très bonne source.
Deux siestes par semaine réduiraient de moitié les risques cardiovasculaires. Bon, je ne sais pas si c'est très scientifique,
mais,
tout ça.
Mais bien sûr, puisque c'est suisse.
En tout cas, c'est avec tout ça, nos patrons ne nous installent pas une salle de sieste à côté de la salle de rédaction. C'est vraiment une plus rien à comprendre.
Eh bien, figurez-vous qu'on en a une, mais alors il n'y a pas des matelas aussi confortables que ce que vous décrivez, mon cher Lionel.
Enfin voilà, Ilobed, donc c'est à Roubaix.
Merci Lionel Gougelot, vous êtes notre correspondant dans les Hauts-de-France. La sieste, solution miracle pour les employés au bout du rouleau. Mathieu Charrier, c'est pas pour vous, hein, vous êtes solide comme un roc.
Moi je prends jamais de vacances,
bah oui.
Je suis une machine. Non, vendredi je suis pas là par contre.
Ça c'est Charrier. Il est le dieu de vos enfants puisqu'il a inventé le personnage de Titeuf, mais aujourd'hui c'est un album exclusivement réservé aux parents qu'il vous présente, Happy Sex 2. Tous nos travers dans la chambre à coucher, décryptés avec malice. Zep est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Vous écoutez L'Équipée Sauvage, deux heures d'ordinaire informative et rieuse, étonnamment moite et sensuelle aujourd'hui. Certainement parce qu'on parle de Happy Sex 2, une BD franchement drôle, mais aussi franchement érotique. Or, je le disais, ça ne nous ressemble pas dans l'équipe de pensée comme ça, hein, comme on a pu le constater hier au détour d'un lancement raté. C'est comme une remise de médaille au JO, sauf que les athlètes ne savent pas s'ils vont monter dessus ou pas. J'ai oublié un mot là.
Oui, podium.
J'ai oublié le mot podium. Parce que sinon, on peut penser qu'ils vont se monter dessus les uns sur les autres. Non, vraiment, d'habitude, on est très prudes dans l'équipe. On n'est pas du genre à avoir l'esprit mal tourné. À suivre, la compétition continue, on accueillera de nouveaux concurrents. On parlera notamment de ce qui est en passe de devenir un phénomène de société. Ces femmes qui décident un jour d'avoir un enfant toute seule. Il suffit de trouver un pote sympa comme moi, et puis c'est vrai que techniquement, c'est très vite fait. Hein. Je me souviens avec Eva, 8 minutes après, elle me disait :
tu veux un café ?
Mais est-ce viable sur le long terme, Eva ? C'est la question qu'on aurait dû se poser. A tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, L'Équipée Sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez L'Équipée Sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1. Chaque après-midi, ils s'affrontent pour le titre de chroniqueur du jour. La prestigieuse couronne reviendra à celui ou celle dont le sujet vous aura le plus intrigué. Vous votez via Twitter, sachant que la voix de notre invité d'honneur compte triple aujourd'hui. C'est l'homme derrière Titeuf qui nous accompagne. Zeb, vous publiez Happy Sex, tome 2, 60 situations cocasses inspirées de notre vie sexuelle à tous. À noter l'exceptionnelle continuité éditoriale de notre émission, puisqu'hier, soit on a l'esprit vraiment mal tourné, soit notre invité, l'ex-nageur Yannick Agnel, a pensé à nous rappeler l'importance du préservatif.
Pour une utilisation unique et où on se défonçait les doigts en essayant de la mettre pendant à peu près 30 minutes.
De quoi parlait Yannick Agnel ? Je vous invite à écouter le podcast. Il ne s'agissait pas de préservatif. À suivre, deux nouveaux compétiteurs, Emmanuel Duteil et Eve Roger, actuellement en tête du championnat européen. Avec eux, on évoquera ces enseignes que vous détestiez, qui sont devenues leaders sur le marché. Et puis, c'est de plus en plus courant, mais faire un bébé toute seule, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? On en parle avec notre spécialiste société, Eve Roger.
Europe 1, 16h, 18h, L'Équipée Sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, L'Équipée Sauvage se poursuit dans une bonne humeur teintée aujourd'hui d'une certaine lubricité, puisque nous recevons Zep pour un album que ma grand-mère aurait qualifié de coquinou. Il est d'ailleurs réservé aux plus de 18 ans, coquinou, drôle évidemment, mais presque éducatif quelque part, j'ai envie de dire, Zep. Moi j'ai appris des trucs. Je peux pas dire lesquels, mais j'ai appris des trucs.
Bah, déjà on apprend à rire de soi-même, je pense que ça peut sauver dans pas mal de situations sexuelles.
C'est vrai, avec toutes ces rencontres aujourd'hui sur les applis de rencontre, des gens qu'on rencontre parfois pour la première fois pour cette activité récréative que peut-être le sexe, ça apprend effectivement à dédramatiser. Quand on sait la pression qui pèse aujourd'hui, notamment sur les jeunes en termes de taille, de durée, de souplesse, hein, c'est pas mal de prendre un peu de recul et de rappeler justement la dimension récréative, ludique que doit être le plaisir à deux. Ça, on l'a un peu perdu de vue. Peut-être.
Oui, parce qu'on est dans la culture de la performance avec le porno, surtout chez les mecs. C'est très dur d'avoir, par exemple, des confidences de la part d'hommes, parce qu'on est toujours dans cette culture de la performance et les femmes sont plus généreuses pour raconter ce qui s'est vraiment passé. Et puis, c'est vrai que c'est le terrain de jeu des grands, quoi, la sexualité. C'est peut-être le dernier endroit où on a le droit de s'amuser, de jouer un rôle, de s'inventer des histoires. On n'a plus tellement l'occasion de jouer aux cow-boys et aux indiens. Donc c'est l'endroit où on est censé s'amuser, mais malheureusement, c'est rarement le cas. Enfin, on est quand même vachement dans un truc... c'est un sujet qui est souvent trop sérieux, je trouve. Il y a une pression qui est trop forte. On a une attente souvent qui est trop élevée aussi.
Vous parliez de jouer aux cow-boys et aux indiens. Elle joue toujours le rôle de Pocahontas quand on joue tous les deux. Eva Rock.
N'importe quoi. Est-ce que vous avez eu des réactions de vos copains à la sortie du premier album Happy Sex il y a 10 ans?
Ah ben ils cherchaient à quel page ils étaient en fait. Ils disaient mais c'est moi là, non?
Mais c'est les discussions avec les gens autour de vous qui vous ont inspiré aussi pour l'album 2 ou pas du tout?
Alors il y a quelques personnes, quelques amis, mais plutôt des amis en fait qui me racontent leur vie, notamment tout ce qui se passe sur ces sites de rencontres où il y en a qui sont très actifs là-dessus, pas moi, donc je me suis basé sur leurs histoires. Et puis, oui, j'aime bien aussi placer des... Comme il faut trouver beaucoup de personnages, hein, chaque histoire, c'est de nouveaux personnages, donc il faut créer une centaine de personnages. Alors je mets des fois des tronches de copains, mais sans les prévenir.
Oh, ça doit être tellement bon pour eux quand ils le découvrent.
Surtout s'ils ne sont pas avec leur femme.
C'est encore plus gratiné, évidemment. On continue de parler de cet album Happy Sex, volume 2. Mais la compétition continue avec l'entrée en lice de deux nouveaux journalistes prêts à tout pour le titre de chroniqueur du jour. À ma gauche, après un démarrage chaotique, il revient peu à peu dans la course au titre. Bonjour Emmanuel Duteil.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service éco d'Europe 1. Votre dernière prestation avait été saluée comme si on était dans The Voice par notre invitée Anne-Claire Coudray, souvenez-vous.
de pétrole s'est littéralement envolé hier. Hein. 15% en moyenne. Alors dit comme ça, on pourrait dire, oui, bah pourquoi pas.
Alors je peux dire un mot parce que vous m'avez séché. Vous avez vécu votre chronique physiquement avec votre corps. Bravo.
Il avait vécu sa chronique physiquement avec son corps. Le showman de l'écho est de retour. Emmanuel Duteil, avec quel sujet aujourd'hui?
Eh bien là, on va utiliser son corps pour pousser son caddie au supermarché, dans les nouveaux supermarchés qui fonctionnent, ce qu'on appelle le soft discount ou le discount plaisir, puisque là aussi on va y trouver
le
un peu de plaisir.
Discount plaisir.
Ouais, ouais, on invente des concepts, vous savez, pour vendre.
Ils sont forts en marketing. À vos côtés, on ne la présente plus. Elle a exigé que cette musique retentisse désormais à son passage dans les couloirs de la rédaction. Ève Roger est chef du service société, mais elle est surtout number one du championnat européen. On n'en fait pas trop non plus, Eva. Alors, Ève, avec quel sujet allez-vous asseoir votre domination sur le championnat?
Eh bien, je vais vous parler du parcours de la maman solo, à quoi il ressemble.
Ah oui, mais ça, c'est un vaste débat. Vous avez des témoignages?
Trois.
Ah, elle ne se contente jamais du minimum. Quelle chronique notre invité Zeb préférera-t-il? Réponse juste avant 18h.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
Alors Zep, on vous connaît évidemment pour votre saga majeure, celle de Titeuf. Vous ne croyez pas qu'il y a une petite confusion avec ce dernier album Happy Sex réservé aux adultes, genre que des enfants le mettent subrepticement dans le caddie parce qu'ils se disent ça va être sympa, c'est le même auteur que Titeuf, et que ça place ensuite les parents en fâcheuse posture?
Bah c'est pour ça que l'album est emballé en fait. Et, oui. Là vous avez enlevé l'emballage, mais dans les magasins, il est un peu sécurisé.
Oui, mais voilà. Là il est déjà un peu sécurisé parce que si on ouvre là, Par exemple, là, par exemple, bon, heureusement la caméra est loin, mais disons que c'est un peu plus coquinou.
C'est plus coquinou, ouais. Non, mais j'ai souvent des plaintes d'enfants, en fait, en dédicace, qui me disent ah, « Pourquoi nous, on ne peut pas avoir un Happy Sex ?» Je dis « Le titre vous explique un peu pourquoi vous n'avez pas le droit. » Mais pour moi, ce qui est important, c'est qu'ils savent que ça existe.
Et dès qu'ils auront l'âge, ils l'achèteront.
Ils l'achèteront, voilà. Gardez l'idée que...
Économisez, mettez dans votre tirelire. Alors aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît Titeuf, mais tout le monde connaît-il Zep? On est allé vérifier dans la rue. Voici non pas un micro-trottoir, mais pire, un micro-trottrache. Comme un micro-trot, mais pas monté. On a tout laissé.
Zep, c'est qui ça? Ah oui, Titeuf, avec Nadia, oui.
La Zep? Non. Qui est Zep?
Ah si, voilà, dessinateur, oui, je vois un peu.
Titeuf, c'est pas un humoriste? Non, pas du tout. Il y avait un humoriste qui s'appelait Titeuf aussi.
Le petit bonhomme avec sa petite plume, que je sais pas, sur la tête.
Ah, sex.
Happy Sex.
Ah pardon, excusez-moi, je suis pas
lui il est pas branché, moi oui.
Titeuf, c'est trop vulgaire, je trouve ça, on devrait pas mettre ça à nos enfants.
Ça va plaire à mes enfants alors. Bah, Happy Sex, non, j'ai un ado. Il lit plus Titeuf, mais pourquoi pas Happy Sex, ouais.
Bah, je sais pas, faut mettre ces trucs-là dans un sex shop, moi je sais pas.
Ils sont sur YouPorn toute la journée, donc Happy Sex, je pense pas que ce soit très gênant.
Ouais.
Alors, il n'y a de problème, Zep est une marque visiblement très connue, mais il y a cette réflexion étonnante d'une jeune femme, peut-être même une ado, peut-être même une enfant d'ailleurs, qui dit que Titeuf, c'est un peu choquant pour les enfants. Et c'est étonnant, ça, vous avez des retours là-dessus? Parce que Titeuf, c'est décomplexé, mais c'est quand même à mettre entre toutes les mains.
Peut-être que sa maman était à côté d'elle.
Elle a certainement menti.
Pardon. Est-ce qu'il y a des pays où vous ne pouvez pas sortir l'album parce que trop pornographique?
Ah ouais, Happy Sex sort dans assez peu de pays.
Oui, je crois qu'en Arabie Saoudite, il n'est pas distribué.
Non, mais dans les pays latins, c'est pas édité. Hein. Aux États-Unis, complètement impossible d'éditer Happy Sex. Au Japon, évidemment, pas possible du tout. Non. Par rapport à Titeuf, qui est traduit, lui, dans, je sais pas, 35 pays, quelque chose comme ça, Happy Sex, ça doit être 4 ou 5 traductions maximum. Mais voilà, on ne sait jamais. Ce sont chaque fois des éditeurs étrangers qui sollicitent les droits d'un album pour l'éditer chez eux. Après, ça marche ou ça ne marche pas. Et il y a des choses étonnantes. Par exemple, le guide du zizi sexuel qui pose beaucoup plus de problèmes que Happy Sex. Hein, parce que Happy Sex, c'est un livre pour adultes. Voilà, donc, a priori, on se dit, bon, what the fuck. Enfin, les gens le lisent s'ils veulent, mais s'ils ne veulent pas. Tandis qu'à partir du moment où on parle de sexualité et qu'on s'adresse à des enfants, alors là, on soulève des peurs incroyables. Il y a tout de suite des levées de boucliers partout. Il y en a eu en France énormément.
Oui, au moment de l'exposition.
L'exposition de la Cité des Sciences, chaque fois qu'elle a été réouverte, il y a eu des comités qui tentaient de la faire interdire. Alors que, bon, voilà, mais. La grosse surprise, c'était l'année passée avec Bolsonaro, donc le président brésilien, dans sa présidence.
Qui vous a
pendant
rendu
la
hommage,
présidentielle, voilà, qui est invité aux 20h, juste avant le dernier tour, et qui brandit le guide en disant qu'il faut le faire interdire. Alors que c'est quand même fou que au dernier moment de sa campagne. Ce qu'il pense à dire, c'est qu'il faut faire interdire le guidage sexuel.
C'est, quoi, c'est la priorité socio-économique au Brésil. Il ne passera pas ses prochaines vacances à Rio de Janeiro. Vos enfants adorent Titeuf. Vous, vous allez adorer Happy Sex volume 2 du même auteur. Zep est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Eva Rock, Eve Roger, Emmanuel Duteil sont à mes côtés. L'équipe est sauvage. Continue 2 heures de curiosité éclectique pour se coucher moins bête, mais le sourire aux lèvres. Une émission rieuse, certes, mais qui reste journalistique avant tout. Priorité à l'info est notre slogan et nous ne sommes pas de ces journalistes qu'on muselle ou qu'on achète. Ici, on n'a pas peur d'aborder de front les questions les plus polémiques, comme hier.
Non, mais je déteste la coriandre.
Eh ben moi j'adore.
Un chouïa plus intéressant que ce débat, nous en avons parlé cet après-midi de ces enseignes qu'on détestait il y a encore 5 ans et qui aujourd'hui sont leaders sur leur marché. Serions-nous des girouettes? Peut-être, à tout de suite.
L'équipe est sauvage avec Mathieu Noël.
Ouais, qu'est-ce qu'il a comme formation?
Bah si, il a...
Rien du tout. Il bouffe la moitié des paroles. On comprend pas ce qu'il dit. Voilà. Ah bah. Allez, au revoir.
Au revoir.
16h, 18h sur Europe 1.
Mathieu Noël.
Piégé à mon propre jeu. Bravo la régie. Vous êtes tiraillé. Sur une de vos épaules, un petit diablotin vous dit « Détends-toi en regardant les ch'tis à Miami, tu t'en fous. » Mais sur l'autre épaule, un petit ange vous dit « Non, quand même Jean-Yves. » Oui, je vous vois bien vous appeler Jean-Yves. « Cultive-toi un peu, il y a un truc super intéressant sur Arte. » Et si vous les écoutiez tous les deux? Si vous écoutiez l'équipe est sauvage, 2 heures pour booster votre savoir sans pour autant vous péter un neurone. Les meilleurs journalistes d'Europe 1 se succèdent au micro. Celui dont le sujet vous aura le plus bluffé sera élu chroniqueur du jour. Sous la haute autorité de notre invité arbitre, aujourd'hui c'est l'auteur de BD Zep qui nous accompagne pour ce qui constitue un cadeau formidable, mais réservé aux plus de 18 ans, le volume 2 de Happy Sex. On continue d'en parler, mais l'heure est venue d'accueillir un nouveau concurrent. Et je disais qu'ici, savoir n'empêchait pas rigolade. Bon, pas toujours. Hein.
Aujourd'hui, j'ai décidé donc d'un sujet chiant.
Non, c'est pas le concept de l'émission. Il faut que ça soit un peu sexy quand même. Vous êtes le chef du service éco. La dernière fois, vous avez ressuscité tel le phénix. Hein. Vous avez gagné des points pour la première fois.
Ouais,
c'est déjà
vous,
ça pour vous. Avec quel sujet allez-vous nous surprendre aujourd'hui?
Eh bien, vous connaissez tous le hard discount qu'on a connu dans les années 80-90. Alors disons-le, hein, c'était très très moche. Des magasins quasiment sans lumière, des produits sur des palettes et encore aucune marque nationale. On pouvait par exemple pas y trouver un coca. Et bien, ce qui marche aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le soft discount ou le discount plaisir. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est par exemple Lidl. Je ne sais pas si vous êtes allé chez Lidl récemment. Là, maintenant, les magasins sont plutôt bien agencés. C'est assez joli. Vous avez un petit rayon boulangerie où ils font le pain directement là chez Lidl. Vous trouvez quelques marques nationales. Alors, pas beaucoup, hein, mais vous avez quand même le fameux coca qui donne envie aux gens de venir. 10% environ des produits qu'on trouve dans un Lidl sont des produits de marque nationale. Le reste, c'est quoi? Ce sont des marques propres à Lidl qu'on ne trouve que chez eux, qui sont à des prix extrêmement intéressant et contrairement au hard discount, c'est pas de mauvais produits, la qualité est plutôt correcte et ils font des coûts énormes. Je sais pas si par exemple vous aimez Thermomix, mais chez eux ils ont Monsieur Cuisine, qui est l'équivalent, vendu 4 fois moins cher, qui est un succès. Mais on ne peut même pas imaginer, il y a rarement eu des foules comme ça dans des magasins pour aller acheter un tel produit. Donc aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne. Lidl, c'est très clairement ce qui marche le mieux dans la grande distribution. Plus forte progression cet été de toute la grande distribution. Et ils commencent vraiment à tailler des croupières aux grands groupes.
Et ce sont les seuls Lidl à faire ça?
Non, et si j'ai eu envie de vous en parler cet après-midi, c'est qu'un autre Allemand arrive également, c'est Aldi. Alors là aussi, c'est une marque quand même très connue. C'est un groupe allemand qui est complètement austère, un groupe qui communique jamais et qui était arrivé en même temps que Lidl à la fin des années 80, début 90 en France. Alors vraiment avec ce concept du hard discount vraiment pas sympa. Eh bien eux aussi ils sont totalement en train de se réinventer aujourd'hui. Ils refont tout leur supermarché et ils veulent fortement grossir puisque hier soir on a appris qu'ils voulaient racheter Leader Price, la chaîne de magasins Leader Price. Aldi, c'est environ 900 magasins en France et Leader Price, c'est un petit peu moins de 700. Donc, il doublerait de taille et deviendrait un énorme concurrent pour Lidl. Et c'est vraiment ces deux gros groupes qui vont se partager le marché. Alors, vous pourriez me dire, qu'est-ce qu'ils font les Carrefour, Intermarché, Super U? Bah oui, c'est la question qui pouvait être intéressante.
Ils montent en gamme aussi?
Eh ben non, ils ne montent pas en gamme. Ils ne vont pas véritablement sur ce marché parce qu'ils ne savent pas faire. C'est extrêmement compliqué d'avoir ce modèle où on a des marques propres de distributeurs qui fonctionnent. Il faut acheter très peu de produits, mais les acheter en énorme quantité. Alors Carrefour essaye, ils ont lancé Supéco, notamment aux alentours de Valenciennes, ils ont ouvert récemment 2 magasins. Mais vous verrez, c'est sûr, ce ne sera pas le même succès que Lidl et Aldi qui sont en train de réinventer ce marché du discount. On n'a plus honte d'aller faire nos courses, quel que soit notre niveau de revenu, dans ce genre de magasin.
Mais juste une question, ce que je ne comprends pas très bien, c'est qu'à la base,
pas du tout.
Non, mais si les magasins Lidl étaient très cheap à une époque et c'était pas la volonté d'être moche, c'est juste que ça leur faisait faire des économies.
Bien sûr.
Aujourd'hui, ça va leur coûter cher.
Non, parce que c'était effectivement la volonté de faire des économies, sauf qu'ils se sont rendu compte que les gens
gens ne voulaient plus aller dans ces magasins parce que c'était stigmatisant. C'est-à-dire qu'on se disait, si on va dans ces magasins moches où on a des produits pas super, ça veut donc dire qu'on est pauvre. Aujourd'hui, vous payez pas beaucoup plus cher chez Lidl vos produits. Sauf que malgré, on n'a plus honte à y aller et surtout, ils ont réussi à faire venir des gens qui ont plus de revenus. Donc c'est pour ça que ça fonctionne.
Merci beaucoup Emmanuel Dutheil. Vous avez porté cette chronique aussi avec votre corps, je l'ai senti.
Bah, essayé,
ça venait du diaphragme. Très impressionnant. Zep, vous faites vos courses à la Migros, de toute façon, il y a pas de.
Non, mais il y a aussi des soft discounters en Suisse.
Vous connaissez le soft discount?
Bien sûr.
C'est vrai. En Suisse, on a besoin de soft discount.
Enfin, du hard discount, mais qui devient plus joli, effectivement.
Qui devient acceptable, exactement.
Merci Emmanuel Dutheil.
De rien, Mathieu. De rien.
Merci
de rien.
Beaucoup.
Vous avez votre point si vous voulez.
J'y réfléchis, j'y songe, mais n'essayez pas de m'influencer comme ça de manière si grossière. Vous avez envie de rigoler, mais aussi d'apprendre des choses sur le sexe. On vous conseille chaudement Happy Sex 2. Son auteur Zep passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
Je rappelle incidemment que cette BD dont on parle cet après-midi, Happy Sex Volume 2, est réservée aux plus de 18 ans. Certaines scènes sont en effet assez explicites. C'est un euphémisme. Et c'est très chaud aujourd'hui hein, dans le studio Coluche. Zep, comment voyez-vous la suite de l'émission?
Ma femme va mettre son déshabillé noir, et on va se faire une jolie petite partie.
C'est une idée, mais pour celle de nos auditrices qui auraient mal à la tête et plutôt envie de se faire une petite série sous un plaid avec des cookies, Eva Rock nous dira quoi regarder sur nos écrans ce soir, juste après un titre qui va ne pas nous rajeunir, mais qui va nous faire beaucoup de bien. Men in Black, Will Smith sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, ou plutôt aujourd'hui vu notre invité, l'équipe est coquine. Oui, Zep, l'homme derrière Titeuf, nous présente le volume 2 de son album Adults Only, Happy Sex. 60 scènes dans lesquelles chacun d'entre nous se retrouvera forcément. Culte de la performance, à 2, à 3, à plus. Perte du désir, impuissance. Zep semble si au fait de notre sexualité et de nos problèmes que durant la coupure pub, Emmanuel Dutheil s'est confié à lui.
Il pendouille, flasque, sans vie, et c'est... On dirait qu'il est mort. J'ai trop joué avec dans ma jeunesse, j'ai du mal m'y prendre.
Certainement, mais secret médical. Vous consulterez hors antenne. Zep, vous connaissez mon éthique journalistique, je me suis fait un devoir de lire votre BD en entier. Ça n'a pas été très difficile, on s'est régalé avec Eva. Vous ne vous êtes fixé aucune limite hein, dans cette BD. Vous n'avez pas de tabou.
Bah non, enfin, si on aborde ce sujet, il ne faut pas en avoir. Sinon, c'est justement le problème. Je trouve que ça reste un sujet qui est, même si on voit beaucoup plus de pornographie, même si on en parle beaucoup plus, parler de notre propre sexualité reste compliqué. C'est pas dans nos rites sociaux de parler de sexe. Alors on peut en parler au bureau, au bistrot, mais dans le couple, on en parle assez peu. On le fait, mais on n'en parle pas forcément ni avant. Il n'y a pas de débriefing après.
Ça serait bon un débriefing après.
C'est pas dans les usages. Ce qui fait qu'on a tendance à rentrer dans des pratiques sexuelles un peu qui deviennent routinières ou à développer chacun des fantasmes qu'on n'ose pas forcément partager avec l'autre. Tout ça est un peu trop sérieux souvent. Donc ça fait on a un besoin urgent de rigoler de notre sexualité, je pense.
Alors on sent que pour écrire cet ouvrage, vous avez enquêté, vous avez dû certainement vous abonner à Dorcel TV. Est-ce que vous regardez beaucoup la télévision, les écrans?
Pas beaucoup la télévision, mais les écrans, oui, pas mal. Ouais.
Justement, selon une étude de l'université d'Oxford, on perd en moyenne désormais 17 minutes chaque soir, rien qu'à choisir le programme qu'on va regarder sur Netflix ou les plateformes auxquelles on est abonné. Heureusement, il y a désormais 17 minutes de gagné. Eva Rock, qu'est-ce qu'on regarde ce soir?
Alors, c'est pas ce soir, c'est demain soir, en fait, que je propose un programme. Cher Zep, je pense que votre héros Titeuf adorerait ce programme en question que j'ai sélectionné pour vous et que vous pouvez donc découvrir samedi soir à 22h30. C'est sur Gulli. Plutôt redécouvrir, c'est le mot le plus juste. Il y a 40 ans apparaissait sur nos écrans, à tube cathodique hein, à l'époque, un maestro et un générique porté par cette musique de Bach.
Ah oui, c'est génial ça.
Ah super.
Ah oui. Mais moi, mon fils, il le regarde toujours, on regarde ça.
Et oui, il était une fois l'homme. Alors, c'était ça, c'était la première déclinaison qui s'appelait comme ça. C'était Albert Barillet qui donnait naissance à un dessin animé culte, Il était une fois l'homme. Donc, 26 épisodes de 26 minutes. 15 vont être rediffusés demain soir pour raconter l'histoire de l'humanité. Alors, l'objectif, c'était d'apporter un savoir encyclopédique aux enfants à travers donc un film d'animation bourré d'humour avec la figure du maestro qui était en fait Albert Barillet qui s'imaginait vieux, comment il allait vieillir en tout cas. Autour du sage, une galaxie de personnages, le bon, le méchant, le gros, le nabo, vous vous souvenez du nabo? Et les voilà d'ailleurs. Je regarde Emmanuel Dutheil, je ne sais pas pourquoi.
Il y avait le teigneux.
Le teigneux, exactement. Et les voilà d'ailleurs, ces personnages en Amérique découvrant la civilisation indienne.
1 million pour un territoire grand comme 17 fois la France. Et des bisons. 60 millions de bisons.
Pourquoi pas moi, enfin ?
Croissant et se multipliant pour donner à l'Indien tout ce dont il a besoin. Viande pour le nourrir, peau pour le vêtir, tendons pour les cordes des arcs, os pour la pointe des flèches.
Alors si je vous ai mis cet extrait, c'est pour la voix de Roger Carrel, qui nous a accompagnés évidemment toutes ces années.
C'est une Madeleine de Proust.
Exactement, et qui a participé au succès de cette série animée, alors qui certes a vieilli, mais sincèrement ça demeure un programme de qualité. J'en ai regardé 3 ou 4 épisodes hier, j'ai trouvé ça formidable. 26 minutes, c'est long pour les enfants, mais je pense qu'ils ne décrochent pas parce qu'il y a toutes ces petites pastilles d'humour qui les laissent devant l'écran. Ce sera donc demain soir, et vous pourrez aussi redécouvrir notamment la déclinaison Il était une fois dans l'espace, avec un générique signé. Est-ce que vous savez de qui est ce générique hein?
Michel Legrand.
Exactement.
Emmanuel Dutheil.
Je l'ai vu sur la feuille des vins.
Oh, parce que le jour où vous m'apprenez une chose en musique, Emmanuel Dutheil, je m'évanouis.
Non, vous me que je suis honnête.
Vous êtes honnête.
C'est vrai.
Voilà, si sur Gulli, c'est à 22h30, laissez vos enfants devant la télé. Ouais, il n'y a aucun problème. Et puis vous pouvez regarder, évidemment, même si vous êtes
grand. Oui, regardez avec eux.
C'est comme Titeuf, hein, c'est pour tout le monde. Hein.
17 minutes de gagné, merci Eva Rock.
Europe 1.
À suivre dans l'équipe est sauvage, Ève Roger va décrypter pour nous un phénomène de société, ces femmes qui soit ne trouvent pas d'hommes à leur goût, soit, comme Eva Rock, ressentent une lassitude généralisée à l'endroit de tous les hommes, unanimement rebaptisée...
Trou de balle.
D'où leur décision de faire un bébé toute seule. Comment ça se passe pour celles qui l'ont fait et leur entourage? À tout.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
À quoi mesure-t-on la valeur d'un homme ou d'une femme? Oscar Wilde disait « La vraie valeur d'un homme réside non dans ce qu'il a, mais dans ce qu'il est. » Oui, Ève Roger.
Et les hommes, c'est la taille du pénis.
Oui, merci Ève. Merci. Chaque jour, nous mesurons la valeur de nos journalistes en fonction de leur éloquence et de leur capacité à nous surprendre. Un seul sera élu chroniqueur du jour, sous l'œil attentif d'un invité d'honneur, Zep. Il sort Happy Sex 2, une BD qui croque notre sexualité avec malice. Il y évoque ce qui marche moins, au lit. Sur certaines planches, très franchement, Zep, on dirait un biopic d'Eva Rock. D'ailleurs, Eva, comment ça s'est passé hier soir avec votre ami mexicain rencontré sur Apple, là, El Chibro del Sol 75? Bueno?
Non, mais sauf que t'as l'impression que ça monte, puis ça redescend,
oui,
ça remonte,
oui.
Ça redescend.
Oui, mais c'est ça, ça fait longtemps que vous n'aviez pas consommé. Pendant que vous vous remémorez ces beaux moments, je vous propose qu'on découvre la dernière chronique en compétition aujourd'hui. Ève Roger, vous êtes actuellement en tête du championnat européen avec 16 points, ce qui est énorme. Avec quel sujet comptez-vous enfoncer le clou?
Bah, je voulais vous parler des mamans qui faisaient des bébés toutes seules. Alors, on sait que la loi va l'interdire, c'est dès la semaine prochaine. Une maman seule aura le droit de faire une PMA grâce à un donneur de sperme. Alors évidemment, elles n'ont pas attendu cette loi pour faire des enfants toutes seules. Alors soit elles partent à l'étranger, en Espagne, en Belgique, faire une PMA là où c'est autorisé, soit elles font avec des moyens artisanaux, un ami généreux, un coup d'un soir. En tout cas, ça existe déjà, on ne peut pas le chiffrer parce qu'on ne le sait pas. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, la société, beaucoup se demandent, est-ce que la société doit encourager ces femmes à faire des enfants toutes seules? Parce qu'on sait à quel point c'est difficile. Ce n'est pas forcément d'accoucher, ça dure 9 mois, puis après il y a l'accouchement. C'est après les éduquer toutes seules dans une espèce de tête-à-tête entre la mère et l'enfant. Alors donc la question se pose aujourd'hui, certains pédopsychiatres se posent la question, certains psys, même certains hommes politiques. Et donc je voulais vous faire rentrer dans le parcours d'une maman solo de l'intérieur. Alors on va faire un parcours, alors on va commencer avec Audrey. Audrey, elle a 40 ans, elle vient tout juste de se séparer et elle n'a toujours pas d'enfant.
C'était vraiment la double peine, parce que non seulement c'était une rupture amoureuse, et puis en plus je rentrais dans la zone rouge en fait de la fertilité. De toute façon, avoir un enfant, il n'était pas question que je m'assoie sur la maternité en fait, c'était impossible.
Vous entendez ça, ce désir chevillé au corps, et ce désir il est viscéral, il est hormonal et il est culturel. Donc certaines femmes donc décident quand même d'y aller, même si elles n'ont pas d'homme à ce moment-là. Et donc c'est le cas de, elle s'appelle Marie, elle a 39 ans et elle est sur le point d'accoucher. Elle a choisi un donneur de sperme sur internet dans une banque de sperme au Danemark. Elle a reçu le sperme par la poste, et c'est son gynécologue français qui a fait l'insémination.
Et lui, il a le droit, le gynécologue?
Ah non, pas du tout.
Non, pas du tout.
Il n'a pas du tout le droit, mais il y a des gynécologues qui sont compatissants. Mm-hmm. Là, elle est à la veille de son accouchement. Et écoutez, tout va bien.
Ouais, alors, je suis très sereine, moi. Je suis très entourée. Je sais qu'il va y avoir plein de monde avec moi le jour J. Je serai accompagnée par mon meilleur ami qui s'est fait tous les cours d'accouchement avec moi. Voilà, tout le monde attend cet enfant avec... impatience, il est déjà très entouré.
L'important, c'est d'être entouré. Le copain, moi j'adore le copain qui va faire tous les cours d'accouchement avec elle. Hein. Et alors maintenant, on va arriver au plus difficile, c'est après l'accouchement. Et là, on a Iman. Iman, elle a 39 ans. Son fils, il a déjà 1 an et demi. Et écoutez, là, c'est pas vraiment facile tous les jours.
Les débuts, c'était très difficile. C'est le manque de sommeil. Il est infernal pour l'esprit. Hein. J'ai eu des moments où je pleurais à 3h du matin. J'étais démunie. On se dit, on n'est pas une bonne mère. Parce qu'une bonne maman, elle sait calmer un enfant. C'est toujours difficile d'être mère célibataire.
Alors, après, on peut écouter Imane pendant très longtemps, elle est émerveillée d'avoir fait cet enfant, mais c'est quand même quelque chose qui est difficile. Donc ce que dit la science aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut vraiment avoir un projet mûrement réfléchi. Et puis d'abord, ensuite, les couples, parfois, c'est pas toujours plus facile. Oui. Hein, on le sait tous.
C'est pas forcément le bon schéma. Le
il faut éduquer un enfant. Et puis, il y a une chose qui paraît évidente, c'est qu'on reste pas forcément célibataire toute une vie.
Évidemment, mais c'est vrai que ça pose de vastes questions, ne serait-ce que, évidemment, on comprend l'envie d'enfant d'une maman, il faut penser à l'enfant aussi, est-ce que c'est viable ensuite, est-ce que ça marche, est-ce que l'enfant
c'est un ensemble,
épanoui.
L'entourage, l'environnement, les parents, les amis, et puis je vous dis, c'est vrai qu'à 40 ans, on a quand même, heureusement, l'espoir de trouver un compagnon qui peut avoir des enfants aussi.
Merci Ève Roger pour cette chronique vraiment captivante. Eva, elle vous a plu ?
Celle-là, je l'ai comprise.
Formidable, on avance, de jour en jour, vous progressez. Mais vous n'y couperez pas, néanmoins, Ève. Même si vous êtes une winneuse dans l'âme, il y a la question vache de l'autre chroniqueur. Emmanuel Duteil, vous allez réussir à être vache sur un sujet comme ça ?
Bah non, parce que c'est un beau sujet. Est-ce qu'on sait combien il y a de mamans solo en France ? Est-ce qu'on a une estimation ?
Alors, on n'a pas d'estimation, puisque c'est interdit d'avoir recours à la PMA. Donc, il y a à peu près 20 000 naissances par an par PMA. Et à l'intérieur, on imagine qu'il peut y en avoir 1000 ou 2000 qui sont des mamans solo.
Par exemple, combien de mamans font des méthodes artisanales ?
Alors, à l'artisanale, on a des exemples particuliers, mais on n'a pas de chiffres, évidemment.
Bah vous enquêterez vous-même, Duteil, vous êtes journaliste aussi, paraît-il. Merci, Ève Roger. Eva, je ne vous ai pas senti très attentive durant cette séquence. Vous repensiez à Chibro 75. Là, comment ça s'est terminé ?
Il est parti tout seul.
Là, l'invité pourrait être choqué, normalement, pas Ève, qui publie Happy Sex, une BD pour adultes comique et un petit peu pornographique, que je qualifierais donc de porno-comique.
Europe 1.
Duteil, Roger, Rock, qui sera élu chroniqueur du jour ? Vous votez via Facebook et Twitter. On passe un joli moment, on rit, on apprend des trucs. Mais dites-moi, on n'est pas comme oublié de vous arrêter faire les courses pour le dîner de ce soir ? Ne pilez pas, vous n'avez même pas regardé dans le rétro. Et puis, c'est pas grave, vous savez bien que dans ces cas-là, il y a Délice in Extremis, notre recette de dernière minute. Aujourd'hui, Olivier Pouls aura-t-il réussi à s'inscrire dans le thème de l'émission ? Quelle est votre recette du jour ?
Ce sont deux cuisses de chevreuil fermes.
Ah oui.
Et délicatement écartées.
Ah ouais.
Fourré de crème épaisse.
Oui.
Mouillé de vin blanc chaud qui ruisselle sur les parties charnues de la bête.
Ah oui, ah, c'est bien inscrit. Belle continuité éditoriale d'Olivier Pouls. A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue. Deux heures d'un pugilat sans nom entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui se déchirent pour le titre de chroniqueur du jour. Qui s'assoira non pas sur le trône de fer, mais sur mes cuisses musclées, pour que je le couronne et qu'éventuellement on se lance dans un jeu de rôle inspiré d'une des scènes de Happy Sex, la truculente BD de notre invité Zep. 60 scènes de la vie sexuelle en 2019. Des moments de kiff, des moments de lose aussi. Et là, je me tourne vers ma consoeur Eva Rock. Eva qui est trop pudique pour le dire à l'antenne, mais comme elle l'a dit un jour hors antenne et que les micros tournaient quand même, on va pouvoir l'entendre. La morale de cette histoire, c'est toujours bien choisir sa playlist avant de commencer un câlin.
J'avais un fantasme absolu de faire l'amour sur Kate Jarrett. Et le jour où j'y arrive enfin, le morceau il est horrible.
Et je me suis levée d'un coup, j'ai défoncé le...
Pas le mec, mais le poste.
Non mais ça tu le récupères pas.
Ah non, je ne le récupérerai jamais, on ne le diffusera jamais. Eva, qui était ce partenaire, on peut dire son nom
non,
peut-être.
Ah bah non, sûrement pas.
Ah non, on ne révèle
non,
pas
non, non. Bon. Mais est-ce que Zeb, vous êtes d'accord qu'il faut avoir la bonne playlist pour avoir des pratiques sexuelles réjouissantes?
C'est assez casse-gueule la playlist, parce que ça veut dire qu'on doit déjà présupposer du timing.
Exactement.
Ça peut être un peu blessant, parce que si ça s'arrête, je suis désolé, je pensais que ce serait fini là, mais on passe au big bisou de Carlos. Je pense que c'est assez dangereux quand même. Moi, je suis pas tellement partisan de la playlist.
Zeb, vous dites aujourd'hui, quelqu'un qui ne réussit pas sa sexualité ne réussit pas sa vie. Il y a une pression sociale très forte, d'où le besoin.
Mais non, mais il fait
un constat. Il dit pas que c'est bien. Duteil. Vous inquiétez beaucoup nos chroniqueurs, Zeb. Non, mais c'était important du coup de décompresser dans une période où peut-être plus que jamais on a une pression sociale très forte qui nous incite à être performants, nous les hommes spécifiquement, mais vous les femmes aussi, à jouir et à savoir trouver les chemins de l'orgasme. Il fallait décompresser avec une BD.
Décomplexer aussi.
Bah oui, il faut. Enfin, on sait que pour l'homme, l'éclat de rire en pleine action, c'est rarement. Enfin, ça aide pas beaucoup, quoi. Ça fait débander. Mais des fois, il vaut mieux se marrer et reprendre un petit peu plus tard. Je pense que on met trop de sérieux. Il y a trop d'attentes. Ce culte de la performance, il nous bousille. Et surtout qu'on trouve de plus en plus de tutoriels aussi sur Internet. C'est absolument hallucinant.
Oui, mais ça, c'est plutôt pas mal.
Alors, c'est pour pas mal pratiques dans qui... l'intention, oui. Mais après, dans l'application, si vous voulez, c'est les ça tutos internet. Mécanique. C'est comme le gars qui a une guitare depuis une semaine, il sait jouer un morceau et il fait un tuto. Et non, il faut pas. Il faut d'abord que tu testes si vraiment ça marche.
Oui, moi je me posais la question parce que moi je suis pas un homme, mais est-ce que le culte de la performance.
Scoop, enfin.
Est-ce que le culte de la performance ne diminue pas avec l'âge malgré tout et l'expérience? Le souci, l'inquiétude.
Oui, bah, j'espère. Bah normalement, oui, parce que l'expérience fait qu'on se rend compte que c'est pas là-dessus que.
Mais est-ce qu'on l'a pas à chaque début d'histoire quand même? Est-ce que ça se répète pas?
Bah ça, je sais pas. Moi,
c'est toi qui t'es marié récemment.
Je sens que ça soulève beaucoup de questions très personnelles, ce débat. Sur la facilité, justement, avec laquelle on a aujourd'hui accès au sexe numérique, vous dites. Il est intéressant de noter que l'âge moyen de la première relation sexuelle, qui n'avait fait que baisser au cours du siècle passé, a tendance à remonter un peu ces 5 dernières années. Le sexe virtuel est si accessible et si facile qu'il a rendu cette génération un peu moins pressée de passer à la réalité.
Mais ça, ouais, c'est incroyable, un constat ça. Étonnant. C'est-à-dire que ce que la morale, l'Église a essayé de faire pendant des siècles, pour finir, c'est les jeux vidéo qui l'ont fait, quoi. C'est que pour finir, c'est quand même plus cool d'être sur son canapé et puis et se taper Lara Croft plutôt que d'aller essayer de rencontrer quelqu'un en vrai et puis te suer des râteaux.
Vous avez grandi avec Titeuf. Maintenant que vous êtes vraiment grand, vous pouvez découvrir Happy Sex volume 2. Zep nous accompagne jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre dans l'équipe est sauvage, inutile de me dire, je sais, vous avez encore complètement oublié de réfléchir à une recette pour le dîner de ce soir. Deux possibilités. Soit vous acceptez l'invitation à dîner de votre voisin de palier.
Ça n'est que des bonnes choses. Hein. C'est des cacahuètes de synthèse avec de la margarine et de la saccharose aussi. C'est une fabrication artisanale. C'est roulé à la main sous les aisselles.
Soit, deuxième option, je vous la conseille, vous suivez la recette d'Olivier Pouls, notre expert culinaire. Inventivité, saveur, simplicité, le tout à petit prix. Aujourd'hui, j'ai demandé à Olivier de rester dans le thème de l'émission Happy Sex. Mission relevée avec brio, vous allez l'entendre. On n'en dit pas plus, Eva, mais...
J'espère que vous aimez les moules.
En attendant, histoire de se mettre en appétit, voici les frangines. Donnez-moi. Ah oui, tout se tient parfaitement cet après-midi sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Pourquoi ça vous fait rire, Évaroc, quand je dis le titre de la chanson? C'est le titre, Donnez-moi, ouais, et oui. Le groupe s'appelle Les Frangines.
Oui, je sais bien, oui, je les ai reçus cet été dans le club de l'été.
Mais ça, tout le monde s'en fout en revanche, mais essayez de ne pas rire à chaque fois que je prononce une phrase. L'équipe est sauvage continue avec notre invité Zep pour la sortie de sa BD réservée aux adultes, Happy Sex 2. Alors, le sexe est important, mais avant, il faut prendre de l'énergie. Et comme je sais que vous avez encore oublié de faire les courses pour le dîner de ce soir, on accueille sans plus attendre votre sauveur. Zep, je vous présente un personnage pittoresque qui aime la vie et ses plaisirs, tous ses plaisirs. Le pâté en croûte, la terrine de foie de volaille, le gigot d'agneau à l'ail, mais pas que. C'est un homme qui croque la vie à tous les sens du terme.
Je butine telle une abeille, je vais d'un pot à l'autre, là, voyez-vous.
On voit très bien, et d'ailleurs on embrasse votre femme, Géraldine. Hein, bisous, GG. Alors Olivier Pouls, Délice in extremis, c'est tous les jours une recette dernière minute pour les étourdis. Et aujourd'hui, après avoir dégusté Happy Sex 2, qu'est-ce qu'on prépare à sa compagne?
Ben, je vous ai préparé des moules.
Bien joué, Olivier.
Puisque vous me l'avez demandé.
C'est vrai. Alors, comment ça se prépare les moules? Ève Roger nous disait, elle était paniquée hors antenne, elle disait, mais les moules, c'est très compliqué.
Non,
du tout.
C'est très simple. Alors, il faut d'abord savoir qu'on est en pleine saison. C'est maintenant qu'il faut les manger. Vous savez, les fameux mois en septembre, octobre, novembre, ouais, décembre. Voilà, ce sont les meilleurs mois pour manger les moules. Alors, on prend évidemment de la moule française, c'est la meilleure, la moule de Bouchot. La moule qui pousse sur des pieux, qui a beaucoup de goût et qu'on trouve tout le long du littoral français. Et puis pour les préparer, alors je ne vous ai pas fait une simple marinière, j'ai essayé d'être un petit peu plus inventif et je vous invite à marier les saveurs de la moule française avec les épices asiatiques. Donc on va faire des moules au curry et au lait de coco.
Wow.
Un peu original. Alors je vois que Eve prend note là. Alors liste de courses, ma chère Eve. Donc il faut évidemment des moules. On compte à peu près 500 grammes par personne. Moules que vous allez nettoyer parce qu'en général il y a toujours une petite barde. C'est pas très compliqué. Hein. Sous eau, on tire la petite barde et puis on les rince. Attention, s'il y en a qui sont ouvertes, c'est-à-dire qu'elles sont mortes, on les retire. Jusque-là, tout va bien?
Je suis.
Bon, il vous faut du lait de coco, une petite brique de lait de coco. Il vous faut une belle cuillère à café de curry. Il vous faut, oh tiens, de la coriandre. On va en remettre un petit peu, bon, pas pour Eva, mais pour tous les autres. Il vous faut un oignon, un petit peu de vin blanc et puis du poivre. Alors c'est très simple, l'oignon, on va l'émincer tout simplement. On va le faire revenir dans le beurre. On va rajouter nos moules. On va bien remuer tout ça, on va mouiller avec le vin blanc, avec le curry. On va laisser s'ouvrir les moules tranquillement, ça va durer 7-8 minutes. On va rajouter notre lait de coco, on va à nouveau remuer. Et puis on termine avec la coriandre et il n'y a plus qu'à déguster.
c'est rapide.
C'est
quand même
hyper,
oui.
C'est
hyper
rapide, que les moules marinières, c'est hyper en fait. Facile. Enfin, les... Et ça coûte pas cher, parce que les
ça
moules restent
cher.
Quand même...
On est resté dans le budget.
Pas cher, les moules, hein.
Que je vous on est demandé. Totalement resté dans le budget.
C'est chez le poissonnier qu'on achète les moules.
Bah,
oui,
bah, donc,
dans le supermarché, mais... Le charcutier n'en a pas en ce moment.
Vous pouvez toujours lui demander, mais il vous regardera d'un drôle d'œil. Et peut-être pensera-t-il que vous parlez en langage codé. Merci Olivier Pouls, qu'on retrouve chaque samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1. Zep, vous restez avec nous, le verdict va tomber, la couronne va se poser sur la tête de l'un de nos journalistes.
Europe 1.
Vous écoutez toujours l'équipe Sauvage et Europe 1, sachez-le, c'est bien plus qu'une radio, c'est une famille. À mes côtés, Eva Roch, complice et amie, n'ayons pas peur de le dire, depuis des années maintenant, elle m'accompagne chaque jour avec affection et loyauté. Tout va bien Eva ?
Hein, tout va bien Pascal.
Moi c'est Mathieu. Bref, le dénouement est proche. Quelle chronique vous aura le plus passionné aujourd'hui ? Quel journaliste sera élu chroniqueur du jour ? Voiture rayée, pneus crevés, coup de fil malveillant.
Comment vous appelez-vous ?
Je m'appelle Thérèse.
Oui, je t'encule.
Non, Dutheil, n'allez pas trop loin, n'allez pas trop loin. Oui, les journalistes d'Europe 1 sont prêts à tout pour ce titre. Le résultat dans une poignée de secondes.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous voyez ce qu'on ressent durant ces quelques secondes furtives qui précèdent l'orgasme ?
Ah oui, oh putain !
C'est ce que nous ressentons au moment de découvrir le résultat des votes. Comme chaque après-midi, quatre journalistes de la rédaction d'Europe 1 se sont opposés, surpassés, au service de votre culture G. Entre les vrais chiffres des ventes de bandes dessinées, les femmes qui font des bébés toutes seules, les enseignes qu'on détestait et qu'on maintenant on adore, et encore les dernières, ou encore les dernières nouvelles des extraterrestres, quelle chronique vous a le plus captivé aujourd'hui ? Découvrons d'abord, ma chère Eva, le vote du public.
À 33% pour Alain Sirou. Bah,
et
Alain ses extraterrestres.
Et les extraterrestres, ça cartonne toujours, Alain Sirou.
Et Emmanuel
en même temps.
Dutheil était vraiment à deux encablures.
Il était au touche-touche, comme on dit.
Touche-touche.
Ah, ça ne s'est pas joué à grand-chose, Emmanuel. Ouais, pour ma part, je donne mon point aujourd'hui à Ève Roger. Je ne peux pas faire autrement, parce que c'était encore un sujet vraiment bien mené. Avec une enquête, elle est la seule à partir sur le terrain, tendre le micro aux gens. Non, oui, je vous regarde, Mathieu Charrier. Vous n'avez pas tendu le micro.
Alors, est-ce que je peux dire la vérité ?
C'est faux, oui, faux.
Dites-le. Elle a quelqu'un qui va sur le terrain, tendre le micro aux gens.
C'est ça, être chef du service
social. Vous entendez ma voix, c'est être un mec.
Mais le moment est venu pour notre invité d'honneur, Zep, dont la BD Adults Only, Happy Sex 2, a tellement passionné Eva qu'elle continue de la feuilleter encore maintenant. Regardez, regardez monsieur page 21, Eva.
Oh, mais c'est pas possible.
Eh oui, avec le Viagra, tout devient possible. Bref, mon cher Zep, c'est l'heure de vous mouiller. Attention, votre voix compte triple. Qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jeu ?
Oh la vache, ça veut dire que c'est ma voix qui va transmettre la couronne.
Eh oui, j'en ai bien peur. Oui, bon, c'est ça qui va se passer.
Non mais il y avait du bon, moi c'est que j'ai grandi, je suis de la culture Jacques Martin, donc j'ai envie de donner mon point à tout le monde.
Oui, c'est beau,
forcément.
Mais vous ne pouvez pas.
Mais je ne peux pas, oui. Non, moi j'aime beaucoup les extraterrestres, mais il me manquait la chute, j'ai besoin de savoir.
Ou pas, voilà, effectivement.
J'attends la deuxième partie du teaser, donc je vais donner ma voix à Mathieu Charrier quand même. Parce que...
Oh, complicité, bande dessinée.
Défendons le
c'est ça.
Mathieu Charrier est maintenant troisième. Médaille de bronze, troisième du championnat européen. Mathieu, vous remportez la compétition.
Je tiens à dire, Mathieu, que Happy Sex est une très bonne bande dessinée. Il faut que vos auditeurs l'achètent.
Eh ben, ça me touche beaucoup parce que ça vient du cœur. Voilà.
Un grand merci à tous, un grand merci surtout à Zep qui nous a accompagnés pendant deux heures. On rappelle le titre de la BD que vous devez acheter ce week-end. Ça va faire un cadeau formidable pour tous vos proches. Happy Sex 2. Une vision décomplexée et jubilatoire de notre sexualité, c'est chez Delcourt. Et puis, merci aussi pour elle. J'ai entendu pendant la pub que vous aviez invité Eva Roch à boire un verre demain soir. J'imagine que vous êtes très excitée, Eva.
Je retourne chez l'esthéticienne.
Super, ça va être génial. C'était la 20e édition de l'équipée sauvage. Merci également à ma Dream Team de la rédaction d'Europe 1, Eva Roch, Ève Roger, Mathieu Charrier, Alain Sirou. L'équipée sauvage revient lundi, 16h.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. Mathieu Noël.